Les Années-Lumière, édition du 26 avril 2009. La grippe porcine, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut craindre et peut-être même redouter. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe, bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors on a commencé cette édition avec cette affaire qui ne cesse de prendre de l'ampleur, l'éclosion de grippe porcine au Mexique, un virus pas comme les autres et qui est déjà sorti du Mexique, après quoi Chantal de Srivastava, vous nous emmenez en forêt.
Oui, parce que dans un récent rapport, l'Union internationale de la recherche forestière s'inquiète de l'avenir des forêts à l'ère des changements climatiques, Yannick. Un constat inquiétant parce que cet organisme, c'est LA référence en la matière.
Nous aurons ensuite le courrier des Années-Lumière, une question sur la peau et sur les produits chimiques, puis la chronique des Années-Lumière. Yves Gingras va nous raconter un fait divers à haute teneur scientifique. Deuxième heure, Hugues de Roussan dans une pharmacie, c'est bien connu, on trouve de tout.
Et même un robot, Yannick, il s'agit d'un distributeur automatisé de médicaments qui prépare les prescriptions et qui élimine presque complètement les erreurs de manipulation humaine.
Après le petit journal de la science, Sophie-André Blondin, vous allez nous promener, vous promener en fait, sur des pentes dangereuses.
Oui, sur les pentes des volcans et sur la pente dangereuse des péchés que l'homme commet dans sa cohabitation avec les volcans, le résultat d'une discussion avec le spécialiste Claude Jopard.
Et pour terminer l'émission, Chantal de Srivastava, vous allez recevoir l'auteur de la semaine.
Édouard Launay, qui a écrit Au fond du zoo à droite, il raconte des histoires de science qui mettent en vedette nos amis les bêtes.
Mais pour commencer l'émission, la grippe. La grippe, oui, la grippe porcine qui, depuis les derniers jours et même les dernières heures, sème une inquiétude grandissante, non seulement au Mexique et aux États-Unis, mais partout dans le monde, des voyageurs, des touristes, des travailleurs qui sortent du Mexique à destination de dizaines de pays. Il y en a des dizaines de milliers chaque semaine. Et parmi eux, un certain nombre, apparemment faible pour le moment, peut être porteur de la maladie. Le bilan, forcément provisoire, est connu, sans doute près d'une centaine de décès au Mexique, surtout des jeunes dans la vingtaine ou la trentaine, et des cas confirmés ou soupçonnés dans quelques États aux États-Unis, aussi près de chez nous que New York, ainsi que dans des pays aussi éloignés que la Nouvelle-Zélande, la France ou Israël, et ce sont toujours des cas qui touchent des voyageurs. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, est bien évidemment sur un pied d'alerte. On craint la fameuse pandémie de grippe qui normalement se répète à intervalles plus ou moins rapprochés, et comme la dernière grande pandémie a eu lieu en 1968, il y a plus d'un demi-siècle, eh bien les risques d'une propagation mondiale du virus de l'influenza sont de plus en plus élevés. Alors pour nous expliquer ce qu'il en est de l'éclosion actuelle, pour nous dire ce qu'on en sait, ce qu'il faut en craindre, ce qu'il faut en redouter, j'ai en ligne l'un des meilleurs spécialistes de l'influenza, le docteur Bruno Lina, qui est professeur de virologie à l'Université de Lyon en France et directeur du Centre national de référence de la grippe pour le sud de la France.
Bonjour.
Alors, comme vous êtes directement impliqué dans la surveillance de la grippe, j'imagine que vous avez les yeux tournés vers Mexico actuellement et depuis quelques jours déjà.
Oui, alors pas seulement Mexico, mais aussi l'ensemble de l'Amérique du Nord, puisqu'il se passe aussi des choses dans le sud des États-Unis. Effectivement, on surveille maintenant depuis plusieurs semaines déjà, et de façon beaucoup plus aiguë depuis quelques jours, la situation notamment au Mexique, mais aussi en Californie, au Texas et au Kansas, hein, où on a assisté à l'apparition, l'émergence d'un virus qu'on appelle le virus de la grippe porcine, qui est maintenant apparemment transmis de l'homme à l'homme.
Donc, virus de la grippe porcine, émergence, qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau venu sur la scène? Parce que c'est un nouveau venu quand même, hein?
Oui, c'est un nouveau venu et je dirais que c'est comme d'habitude avec les histoires de la grippe, on est pris par surprise parce que vous savez bien sûr qu'on surveille la grippe et un éventuel virus pandémique qui aurait été le H5N1, la grippe aviaire. Et là, il s'avère que par le biais d'échanges génétiques entre virus aviaire, virus humain et virus porcin, puisque ces trois animaux peuvent être infectés par le virus de la grippe, eh bien, il a été possible de fabriquer ce qu'on appelle un réassortant.
Un réassortant.
Exactement, qui est un virus qui a attrapé des segments de gènes, des morceaux du génome des virus venant de ces trois espèces pour en fabriquer un nouveau qui maintenant est capable de passer à l'homme.
Alors, est-ce qu'on sait, on sait que la grippe aviaire, on parlait toujours du H5N1 qui était devenu un virus très, très célèbre. Lui, c'est un quoi? Est-ce qu'on connaît son identité, sa signature?
Oui, on connaît son identité et sa signature, comme vous le dites, c'est un virus H1N1. Mais alors, il ne faut pas le confondre avec celui qui circule actuellement chez l'homme et qui a été responsable de l'épidémie de grippe saisonnière, parce que même s'il porte les mêmes numéros sur les H qui signifie hémagglutinine et N qui signifie neuraminidase, même si c'est aussi un H1N1, c'est en fait un virus qui est quand même très différent de celui qui avait été responsable des infections chez l'homme jusqu'à présent.
Oui, parce que j'allais dire H1N1, c'est du virus banal. Alors lui, quand vous dites très différent, comment est-ce qu'on peut expliquer en quelques mots sa différence? C'est génétique, c'est des morceaux de gènes qui ont été empruntés? Comment il est bricolé, ce virus-là?
Alors, là, il faut vous expliquer la classification des virus de la grippe. Il existe un grand nombre de sous-types de virus, et ces sous-types, c'est justement les virus qui portent des numéros particuliers qui vont de qui sont H1, H2, H3, etc., et N1, N2, N3.
D'accord.
Mais à l'intérieur d'un même sous-type, H1N1 notamment, il peut y avoir des virus qui ont des différences génétiques et des différences protéiques très importantes. Or, ces deux protéines H et N, qui sont donc, comme je le disais tout à l'heure, l'hémagglutinine et la neuraminidase, sont des protéines qui se trouvent à la surface du virus.
Oui.
Et c'est vers ces protéines qu'on fabrique nos anticorps et la réponse immunitaire qui permet de guérir ou d'être vacciné contre ces virus. Or, quand ces molécules sont différentes, finalement, la réponse immunitaire qu'on peut avoir ne marche plus. Hein. Et c'est ce qui se passe avec le H1N1 porcin, c'est que nos anticorps à nous, a priori, ne sont pas efficaces pour lutter contre ce virus qui est d'origine porcine et qui est donc suffisamment différent pour qu'on ne puisse pas, pour que ce soit considéré comme un nouveau virus. En fait.
Et c'est la raison pour laquelle on est si inquiet. Donc, ce qui veut dire que même si on a été vacciné récemment ou même si on s'est vacciné contre la grippe qui est courante, dans lequel il y a du H1N1, on n'est pas vacciné contre le H1N1 porcin.
Exactement. Alors, est-ce qu'on n'est absolument pas protégé? Ça, c'est des études qui ont besoin d'être faites pour pouvoir certifier que oui ou non, il n'y a pas de protection du tout. Hein. Mais dans l'absolu, il ne faut pas s'attendre à ce que le vaccin saisonnier ait conféré une quelconque protection vis-à-vis de ce virus.
Dites-moi, docteur Bruno Lina, est-ce que c'est la première fois qu'on voit une chimère porc humain, aviaire? Est-ce que c'est la première fois qu'on voit ça dans le domaine de la grippe?
Alors, des chimères qui comportent justement des virus avec des morceaux de virus qui venaient du porc et de l'homme, ça on en avait déjà vu. Et en particulier chez le porc, il circule actuellement, aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, des virus qui sont des virus hybrides porcins-humains. Par contre, ce qu'on n'avait jamais vu, c'était un virus hybride qui comporte des segments venant des trois animaux. Et on n'avait pas, jusqu'à présent, vu de tels virus qui soient en plus capables d'aller chez l'homme pour terminer la boucle et faire potentiellement donc un virus pandémique.
Et en plus d'être transmissible de l'homme à l'homme, en plus.
Exactement. Donc c'est une situation qui est quand même assez nouvelle. Et la mise en place de chaînes de transmission potentielles doit faire craindre la menace d'une pandémie.
Et donc on dit on craint la pandémie, l'OMS dit peut-être, on est sur une échelle, on regarde, on s'attend. Pratiquement pour des experts de la grippe comme vous et des spécialistes de la surveillance de la grippe comme vous, est-ce qu'effectivement vous êtes dans une situation, je ne dis pas qu'il faut s'alarmer, mais dans une situation quand même qui vous met sur le qui-vive, j'imagine?
Exactement. Donc, il ne faut pas être alarmé outre mesure parce que cette situation, finalement, on a des informations qui sont quand même relativement précises par rapport à ce qui se passe. Traiter ça à la légère, c'est une erreur. Il y a quand même une situation potentiellement inquiétante qui est la diffusion d'un virus de façon abondante dans des populations qui sont plus ou moins bien protégées et vis-à-vis desquelles on n'aura pas toujours la possibilité de mettre en place des traitements ou de mettre en place une prévention efficace. Est-ce qu'il faut maintenant courir partout en criant au loup, en disant « Oh là là, on va avoir une pandémie gigantesque ?» Là encore, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. On sait que ce virus diffuse de l'homme à l'homme. On sait qu'il est capable de voyager avec les personnes infectées. Rappelez-vous que la difficulté avec les virus de la grippe, c'est que lorsqu'on est infecté, on est contagieux 24 heures avant de savoir qu'on est malade. Donc ça facilite terriblement la transmission du virus. Après, est-ce que vraiment on va avoir à faire une pandémie ? Aujourd'hui, on a besoin de suivre un petit peu l'évolution de la situation pour voir si on est dans un phénomène d'augmentation du nombre de cas ou si on est sur un phénomène plutôt stable, voire décroissant. Aujourd'hui, clairement, on détecte plus de cas qu'il y a une semaine, bien évidemment. Toutefois, la surveillance là a été considérablement renforcée et ce qu'on n'observait pas parce qu'on ne le surveillait pas d'assez précis, de suffisamment près, on le voit maintenant. Et il va falloir qu'on surveille sur un certain nombre de semaines pour voir, ou de jours, pour voir si on a effectivement, avec ce niveau de surveillance actuel, une augmentation du nombre de cas ou si ça reste stable et voir si on peut le contrôler.
Dites-moi, docteur Bruno Lina, ce virus qui apparaît au Mexique au printemps, qui est un hybride humain, porcin, aviaire, nous montre que dans le cas de la grippe, on doit toujours s'attendre à n'importe quoi, mais surtout à des surprises.
Pas à n'importe quoi, comme vous le dites, mais à beaucoup de surprises. Hein. Depuis un certain nombre d'années, ce virus influenza nous donne des surprises pratiquement tous les hivers, entre l'apparition de nouveaux variants, l'apparition de virus résistants pour lesquels on ne comprend pas pourquoi ce virus est résistant, la circulation des virus H5N1, l'apparition de nouveaux cas H5N1 un peu partout. J'avoue que tous les hivers, finalement, on a une surprise additionnelle. Là, c'était quelque chose, c'était totalement inattendu. Et même si on sait maintenant que les premiers cas de grippe porcine remontent à probablement plusieurs mois, ce phénomène d'amplification qu'on a observé au Mexique au cours des dernières semaines et qu'on tend de voir apparaître aussi aux États-Unis est quelque chose de très neuf et de totalement inattendu.
Eh bien, docteur Bruno Lina, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup, bonne journée.
Mais je vous en prie, au revoir.
Au revoir.
Ici Louis-André Bertrand, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière et également en diffusion par satellite sur la chaîne Première Plus dès samedi 17h. Vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet ou en syntonisant notre flux MP3 en direct le dimanche. Il n'y a plus d'excuses pour manquer Les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Eh bien, à cause des changements climatiques, les forêts pourraient un jour émettre davantage de CO2 qu'elles n'en absorbent, ce qui pourrait malmener encore plus le climat. C'est la mise en garde que vient de faire l'Union internationale de la recherche forestière, un organisme basé à Vienne qui regroupe la crème de la crème en matière de sciences des forêts. Chantal Srivastava, c'est un constat inquiétant et qui est fondé sur une imposante revue de la littérature scientifique.
Yannick, c'est le plus important rapport du genre publié à ce jour, un document de synthèse, de consensus qui fait plus de 224 pages et qui a mis à contribution une centaine d'experts de partout sur la planète. Donc, à partir des divers scénarios climatiques élaborés par le GIEC, le fameux groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ces scientifiques font le point sur l'avenir des forêts selon les divers scénarios de réchauffement des températures envisagés. Et même si bien des incertitudes persistent, un grand constat demeure, la situation est alarmante. Alors, pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter un des auteurs de ce rapport. Il s'appelle Andreas Fischlin. C'est un biologiste. Il est rattaché à l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich. Il a coordonné le chapitre numéro 3 qui porte sur les impacts futurs des changements climatiques sur les forêts. Il collabore également au GIEC depuis une quinzaine d'années. Il nous dit ce qu'il faut retenir de ce rapport.
Premièrement, le changement climatique qui s'est déjà passé a déjà affecté les écosystèmes des forêts. Et il y a beaucoup d'effets qu'on a déjà observés maintenant, mais ils vont s'augmenter dans le futur. Par exemple, on a vu qu'on a plus de feux qu'on avait, disons, 30 ans. Et puis, on voit aussi qu'il y a déjà des insectes, des ravageurs, des régions qu'ils étaient absents il y a 50 ans. Alors, les forêts peuvent s'adapter si le changement climatique est modeste et si le changement climatique va devenir très grand, disons quand la température de 2 degrés ou 2,5 degrés ou même 3 degrés est surpassée, alors on va avoir plus des effets négatifs. Les forêts contribuent beaucoup comme des puits de carbone. Ils séquestrent du carbone d'une quantité qui est plus ou moins un quart des émissions humaines. Et cette rôle-là va continuer encore plusieurs années. Mais les modèles qu'on a utilisés, quand on regarde qu'est-ce qui se passe si le climat va se changer encore un peu plus, on a vu que ce rôle change parce que les forêts ne sont plus capables d'absorber tout ce carbone et ils deviennent même des sources de carbone si la température va surpasser, disons, 2,5 degrés ou 3 degrés.
Andreas Fischlin de l'Institut fédéral suisse de technologie de Zurich est donc un des auteurs de ce rapport sur les forêts et les changements climatiques. Un rapport, Chantal, qui dit donc que les forêts pourraient émettre du carbone plutôt que d'en absorber. Ce n'est pas rien, ça.
Non, hein? C'est vraiment quelque chose de potentiellement très perturbant, à tout le moins, pour la chimie de l'atmosphère. Et pour mieux comprendre ce que tout cela peut signifier concrètement, j'ai parlé un peu plus tôt cette semaine au biologiste Claude Villeneuve, directeur de la chaire en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi. Je lui ai tout d'abord demandé ce qu'il pensait de ce nouveau rapport de l'Union internationale de la recherche forestière.
Ce rapport-là, c'est un constat sectoriel qui nous montre que les forêts sont un point très sensible à l'intérieur de la dynamique des changements climatiques et de l'adaptation au changement climatique. Et ce qu'il fait surtout ressortir, c'est que on peut pas se permettre de penser que on a du temps pour agir dans le domaine forestier. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que les scénarios d'émissions dans lesquels on se trouve à l'heure actuelle sont des scénarios qui sont extrêmement inquiétants. Donc, il faut qu'on agisse très rapidement sur la réduction de l'augmentation des gaz à effet de serre parce qu'on a déjà en banque un réchauffement acquis. Et la deuxième raison, c'est que l'action dans le domaine forestier est une action qui n'apporte jamais de bénéfices à très court terme, mais qui doit considérer des espaces de temps qui sont de l'ordre du demi-siècle ou du siècle. Et ça aussi, c'est important parce que si on ne prend pas ces actions-là tout de suite, ben on va se retrouver pas capable d'adapter les forêts qui rendent des services immenses au niveau écologique planétaire.
Parmi les scénarios qu'on envisage, celui qui a été mis de l'avant comme étant le constat vraiment le plus alarmant de ce rapport-là, M. Villeneuve, c'est de dire que si on arrive à des températures moyennes qui augmentent de 2,5 degrés, ce qui est dans la fourchette admise selon les scénarios, il pourrait avoir un revirement dans le rôle que jouent les forêts dans tout ce bilan du carbone. Elles pourraient devenir des sources de carbone qui émettent du carbone plutôt que des puits qui séquestrent, qui absorbent. Est-ce que on a un degré de certitude quant à l'éventualité de cette possibilité-là?
Distinguons deux choses. On a un degré de certitude quant à l'augmentation qui est en banque de l'ordre de 2 degrés au prochain siècle. Ça, c'est très bien admis.
Ça veut dire, si je comprends bien, que dans un siècle, on aura 2 degrés de plus par rapport à ce qu'on avait à l'année 1900, grosso modo?
En moyenne. Alors ça, c'est des éléments qui font que, oui, effectivement, on a à se poser la question. Est-ce que les forêts, telles qu'elles sont aménagées à l'heure actuelle, telles qu'elles sont gérées à l'heure actuelle, vont encore rendre le service de puits de carbone qui absorbe à peu près 25 % des émissions anthropiques
de gaz à effet de serre. On peut peut-être rappeler un peu, si vous voulez bien, M. Villeneuve, le processus qui est en cause, ce qui se passe concrètement, qui font que les forêts jouent ce rôle.
Bien, c'est le principe de la photosynthèse. La photosynthèse est un mécanisme qui permet de prendre une molécule de CO2 dans l'air pour l'intégrer dans les tissus vivants. Et la forêt est une accumulatrice de tissus vivants. C'est-à-dire que quand la forêt pousse, les molécules qui forment la forêt, qui vont faire du volume forestier, qui vont faire des sols forestiers, ces molécules-là qui contiennent du carbone, le carbone vient de l'atmosphère. Donc, plus les forêts pompent de carbone, plus elles appauvrissent l'atmosphère de CO2. C'est comme ça que le carbone s'en va vers la biomasse.
Et là, on estime qu'à peu près, quoi, le quart des émissions de l'homme sont absorbées par les forêts, grosso modo.
Actuellement, c'est ce qu'on estime, et dans le dernier rapport du GIEC, on pense qu'on pourrait augmenter d'à peu près 15 % les capacités des forêts avec des plans d'aménagement, de reboisement, de déforestation évitée. On pourrait augmenter de 15 % cette capacité-là, ce qui serait une contribution significative pour réduire la quantité de CO2 ou la vitesse d'augmentation du CO2 dans l'atmosphère.
Sauf que ce récent rapport de l'Union internationale de la recherche forestière, lui, nous parle plutôt d'un scénario où, à l'opposé, les forêts joueraient le rôle contraire et se mettraient à émettre du CO2. Donc, comment on en arrive là?
Ben, on en arrive là simplement en disant, si rien ne change, toute chose étant égale, si on poursuit les tendances d'augmentation des émissions, on va entrer dans un monde où les forêts vont réagir différemment, principalement aux catastrophes qui sont liées au feu, parce que plus de sécheresse, plus de possibilités de feu, et vont réagir différemment aux épidémies d'insectes, parce que elles vont être plus vulnérables de deux façons. Premièrement, parce que les insectes sont sensibles à la température et qu'il y a des insectes qui n'étaient pas présents, qui vont monter vers le nord. Et les épidémies d'insectes vont attaquer des arbres aussi qui sont plus stressés par leur inadaptation à l'augmentation de température. Le fait qu'un insecte puisse découvrir de nouvelles forêts qui peuvent être victimes de ça va clairement causer des dévastations à grande échelle. Et une forêt qui meurt est une forêt qui va rendre son carbone à l'atmosphère.
Sauf que les forêts ne sont pas le seul ingrédient en cause. Comment on fait pour déterminer le rôle qu'elles vont jouer et isoler la boucle compte tenu d'autres phénomènes concomitants qui se déroulent en même temps?
Il y a plein de phénomènes qui se déroulent en même temps. Et moi, je vois l'avertissement du rapport comme un avertissement d'une des fameuses boucles de rétroaction positive qui menace de provoquer ce qu'on appelle des effets de seuil dans le changement des conditions de l'atmosphère. L'effet de seuil, c'est que à un moment donné, vous passez dans un autre état. Et une boucle de rétroaction positive, c'est que vous avez un phénomène qui va, en augmentant, amplifier la cause qui le fait augmenter. Alors, il y en a plusieurs. On pense, par exemple, à la disparition de la banquise sur l'océan Arctique. La banquise a un albédo qui est élevé, donc elle reflète une grande partie de l'énergie qui vient de la lumière. Si vous enlevez la banquise, cette énergie-là va être absorbée par l'océan, qui va se retrouver plus chaud à l'automne, ce qui va retarder la prise de la glace et qui va diminuer la probabilité d'avoir des banquises dans les années subséquentes. Donc, vous avez moins de banquises, signifie plus de chaleur signifie moins de banquises. Dans la forêt, c'est un peu la même chose. Si vous avez plus chaud, parce que vous avez augmenté la quantité de CO2, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, vous allez diminuer l'efficacité de la forêt à capter le CO2. Ou même, vous allez avoir une destruction de territoires forestiers qui vont émettre du CO2, donc augmenter la cause qui augmente la température, qui diminue l'efficacité de la forêt à fixer le CO2.
Compte tenu de l'état actuel de ce qu'on sait, M. Villeneuve, parce que je comprends qu'il y a beaucoup d'incertitudes et qu'on doit vivre et faire avec, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, et c'est ce que fait un peu ce nouveau rapport, que la dégradation des forêts due au changement climatique risque de nous coûter notre plus grand absorbeur de gaz à effet de serre?
Oui, on peut le dire, mais jamais le dire en baissant les bras. C'est une des hypothèses. En fait, c'est un peu comme quand vous allez chez le médecin, qui va vous dire, mon pauvre ami ou ma pauvre amie, vous fumez 2 paquets de cigarettes par jour, vous buvez une bouteille de vodka chaque matin, et puis vous avez une vie qui est certes intéressante, mais qui ne durera pas longtemps. Alors, le médecin qui vous dit ça, oui, il a fait une partie de son travail, mais s'il veut faire son travail comme il faut, il va vous dire quels sont les éléments dans votre vie que vous devez changer et à de quelle manière vous devriez le faire. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut retirer d'un rapport comme celui-là. Le rapport nous dit voilà la situation qui pourrait arriver, mais le rapport dans son ensemble est lié à quelles sont les actions qu'il faut prendre, quelles sont les stratégies à mettre en place, quels sont les manques de connaissances qu'on a pour supporter plus loin des conclusions ou des modèles ou des projections.
C'était Claude Villeneuve de la chaire en éco-conseil de l'Université du Québec à Chicoutimi.
À noter, Yannick, avec son équipe, il a mis sur pied le projet de recherche Carbone Boréal. Ça, c'est un projet qui vise à voir ce qui se passe concrètement sur le terrain quand des espèces d'arbres, caractéristiques de la forêt boréale, sont plantées plus au nord. Il faut savoir qu'ironiquement, avec tous ces bouleversements du climat qui se répercutent sur les forêts, les arbres ici ou plus au nord vont pousser mieux. Et dans les forêts tropicales, on aura davantage de problèmes. Mmh. Donc, un délicat équilibre qui fait qu'on essaie de voir comment, chez nous, on pourrait séquestrer de manière durable du carbone. Compenser. Mmh. Alors, Claude Villeneuve essaie de voir comment on pourrait profiter de tout ça et de voir aussi sur le terrain qu'est-ce que ça donne. Parce que quand on joue avec des écosystèmes, il faut s'attendre parfois à créer des effets pervers. Alors, on veut éviter tout cela, bien sûr.
Deux petits mots, Chantal, en terminant sur les rapports, sur les suites à ce rapport de l'Union internationale sur la recherche forestière.
Il a été officiellement présenté cette semaine au Forum de l'ONU sur les forêts qui se tient jusqu'au début mai à New York, qui regroupe 192 États membres de l'ONU. À l'heure du jour de la rencontre, la gestion des forêts de la planète sur fond de crise économique et de changement climatique. On prépare bien sûr les discussions qui doivent se conclure à Copenhague en décembre pour préparer l'après-Kyoto. Donc ce rapport va sûrement nourrir tous ces débats sur la forêt, Yannick.
Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, Claude Jopard passe en revue les 7 péchés capitaux que les humains commettent dans leur cohabitation avec les volcans. Des péchés comme l'avarice, l'ignorance et l'étroitesse d'esprit.
L'étroitesse d'esprit, c'est se dire le volcan qui explose en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça concerne les Papous, ça me concerne pas, c'est faux. Beaucoup d'éruptions volcaniques auront des conséquences à l'échelle du globe. Par exemple, des éruptions qui pourraient affecter les Açores ou les Canaries, qui sont des îles dans l'océan Atlantique. Si ces éruptions-là ont lieu, plus de transport aérien pendant quelques mois, voire quelques années entre l'Europe et l'Amérique. Une éruption volcanique, ça ne concerne pas que le pays dans lequel elle se produit, ça concerne le globe tout entier.
C'est le moment du courrier des auditeurs. La question cette semaine porte sur la peau, un organe qui protège et sur lequel on applique régulièrement toutes sortes de crèmes, de lotions, de pommades, médicamenteuses ou pas.
Les métaux qui sont contenus dans les crèmes solaires sont-ils éliminés? Si oui, par quel organe et en combien de temps sont-ils éliminés? Merci beaucoup. Mon nom, c'est Daniel Richard de Joliette. Merci, au revoir.
Alors, pour répondre à la question de notre auditrice, Danielle Richard, Hugues de Roussan s'est entretenu avec François Marceau, professeur titulaire au département de médecine de l'Université Laval.
La peau est ce qu'on appelle un épithélium. Donc, c'est une, euh, structure composée de plusieurs couches de cellules. Et c'est un épithélium qui est normalement sec à comparer à d'autres, comme par exemple, prenons l'intérieur de la bouche, par exemple, ou l'intérieur de l'intestin, qui sont d'autres formes d'épithélium. Et la peau est plus imperméable qu'un autre épithélium parce que, justement, elle est sèche, d'une part, et elle est composée de plusieurs épaisseurs de cellules. Donc, à ce moment-là, cette barrière-là nous protège des substances chimiques extérieures jusqu'à un certain point. Et certaines lotions ou certains médicaments qui sont appliqués sur la peau ont une action locale et d'autres visent une action locale, mais leurs composantes vont être absorbées dans l'organisme.
Alors, si on va prendre, par exemple, une lotion qui n'est pas médicamenteuse, prenons, par exemple, la lotion pour protéger des rayons du soleil, là. Comment ça fonctionne et comment la peau fonctionne?
Cette lotion-là ne vise qu'à étaler un certain produit chimique qui absorbe les rayons ultraviolets. Donc, cette lotion-là ne vise pas à distribuer cette molécule-là dans l'organisme. Et aussi, c'est un effet qui est très temporaire. Donc, à ce moment-là, par exemple, les gens savent que s'ils vont faire une baignade, ce produit-là va se dissoudre dans l'eau et va disparaître assez vite. Donc ça, c'est une action purement locale qu'on recherche.
Est-ce que ça peut arriver que des produits comme la lotion solaire, dont le but est d'avoir une action locale, puissent finalement laisser passer certains produits à travers la peau et ces produits se retrouvent dans le système, dans le corps humain?
Pour les lotions anti-solaires, c'est une chose qui est peu probable. Ce sont des composés polaires qui ne passent pas bien les barrières de diffusion cellulaire. La plupart des cosmétiques sont dans le même cas. Certains cosmétiques pourraient être significativement absorbés. Je pense particulièrement, il y a une histoire célèbre sur les cosmétiques anti-acné qui sont basés sur la vitamine A.
Mm-hmm.
Et ces composés-là ont produit des lésions congénitales chez les fœtus de filles qui étaient enceintes et qui ont utilisé ces composés-là parce que la vitamine A ou ses dérivés sont très solubles dans les lipides et à ce moment-là peuvent passer cette barrière de diffusion-là.
Est-ce que c'est le même principe qui joue lorsqu'on parle de médicaments, par exemple de la cortisone ou tout autre médicament qu'on pourrait appliquer sur la peau?
La cortisone, c'est un très bon exemple. Donc, les stéroïdes, ce qu'on appelle les corticostéroïdes anti-inflammatoires, vont, à toutes fins utiles, être très bien absorbés à travers la peau. Donc, on peut les donner localement pour des effets anti-inflammatoires, par exemple, dans l'eczéma ou dans d'autres formes de lésions cutanées. Et leur pénétration systémique va être très, très significative parce qu'ils sont très, très solubles dans les lipides. C'est vraiment une propriété physico-chimique de la molécule active qui explique son entrée dans l'organisme.
Autrement dit, on utilise une certaine capacité imperméable de la peau pour des effets médicamenteux.
Et à ce moment-là, la peau va être perméable. Il y a des exemples assez célèbres, par exemple les thymes, ce qu'on appelle les thymes cutanés. Ce sont des petites pochettes de médicaments qu'on applique sur la peau. Et à ce moment-là, les médicaments qui sont très, très solubles dans les lipides, qui sont à l'intérieur, vont pouvoir être absorbés pour une action systémique. Vous avez l'exemple de la nicotine pour les gens qui essaient d'arrêter de fumer. Mais vous en avez d'autres aussi, comme par exemple, vous avez un médicament de la famille de la morphine qui peut être donné de cette façon-là. Il y a d'autres exemples de médicaments importants qui peuvent être donnés sur la peau, comme par exemple en cardiologie, les nitrovasodilatateurs peuvent être appliqués sur la peau. Il y a un anesthésique local qui est disponible, qui peut être appliqué en crème, donc qui va prendre un certain temps à agir, mais qui... donc ça s'appelle la crème MLA, c'est un anesthésique local.
Il y a aussi les timbres contraceptifs là, qui existent aujourd'hui, est-ce que c'est
absolument
le même principe?
Absolument, estrogène, progestérone, ce sont aussi des hormones stéroïdiennes qui sont très solubles dans les lipides.
Est-ce qu'il arrive parfois d'avoir des lotions, des produits, des crèmes qui ont des produits, par exemple des métaux, qui traversent l'épiderme, alors c'est pas ça qu'on recherche dans la lotion en question, et qui finissent par s'incruster et provoquer à long terme certains problèmes?
Non, je n'ai pas d'exemple de...
Par exemple du plomb ou un autre produit, par exemple un enfant qui jouerait avec des jouets peinture au plomb, des choses comme
non,
ça.
Non, les métaux ne se prêtent pas bien à ça. Cependant, en toxicologie, un exemple important, ce sont les insecticides. Les animaux ou les enfants ou même les personnes qui travaillent professionnellement dans l'agriculture, donc les agriculteurs, peuvent absorber par la peau des insecticides. Et ça, c'est une source de problèmes là, vraiment toxicologiques. Ça peut arriver.
Merci beaucoup, M. Marceau. Au revoir.
Au revoir.
Hugues de Roussan interviewait François Marceau, qui est professeur titulaire au département de médecine à l'Université Laval. Alors, pour nous joindre, pour nous poser vos questions de science, par téléphone, de la région de Montréal, vous faites le 514-597-6166. Et d'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050. Puis aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique maintenant pour terminer cette première heure comme à l'habitude. Cette semaine, c'est Yves Gingras, professeur en histoire et sociologie des sciences à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Alors vous allez nous parler aujourd'hui d'un fait divers, d'une arrestation à New York, des manuscrits de la mer morte. On n'est vraiment pas du tout dans vos habitudes. Qu'est-ce que c'est comme sujet?
En apparence, non, mais ce qui est frappant dans ce fait divers dont je vais donner le grand résumé, c'est que ça nous apprend des choses auxquelles on ne pense pas avec les transformations actuelles. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de débats, de discussions parmi les scientifiques, mais à travers les groupes de discussion, les fameux blogs.
Sur Internet, c'est
pas,
ça, oui.
Pas uniquement les blogs individuels, mais des groupes de discussion modérés par des chercheurs dans différents domaines. Or, ici, tout ce petit fait divers qui nous est raconté dans le Chronicle of Higher Education du 20 mars dernier concerne les manuscrits de la mer morte.
Alors, les manuscrits de la mer morte...
Il y a un chercheur très connu dans le domaine des sciences religieuses qui avait fait paraître en 1995 un livre qui s'appelait « Qui a écrit les manuscrits de la mer morte? » Il s'agit du professeur Norman Golb qui met de l'avant une origine des manuscrits de la mer morte qui aurait été caché justement dans des endroits tout près de la mer morte, vers 70 après Jésus-Christ. Mais ça, peu importe les détails, on devine que dans la communauté des experts des manuscrits de la mer morte, il y a différentes interprétations.
Oui, et donc, comme... lui présente dans ce livre, en 95,
un point de vue particulier,
une théorie qui est débattue.
Mais qui, pour l'instant, on peut dire, qui est toujours minoritaire. Mm-hmm. Et là où les choses se compliquent, c'est que la police de New York a arrêté son fils,
on
Raphaël Golb,
fait divers,
sous l'argument de vol d'identité et de harcèlement pour discréditer des chercheurs. Et ça, c'est assez extraordinaire.
Alors,
parce que
qu'est-ce
qu'il faisait
passé,
son fils? Son fils usurpait l'identité de chercheur, inventait des noms d'individus pour faire l'impression qu'il y avait une cinquantaine de chercheurs différents qui, sur le groupe de discussion des manuscrits de la mer morte, mettaient de l'avant la théorie de son père.
En disant, d'accord avec son père.
Oui, en disant, on sous-estime, il y a une cabale contre la théorie de M. Golb, mais sans bien sûr s'identifier lui-même comme son fils. Et comme il a usurpé des identités de chercheurs reconnus, ça donnait l'impression que d'autres chercheurs reconnus soutenaient la théorie de son père. Alors là, ça a mis la puce à l'oreille à un étudiant de doctorat qui travaillait sur ces sujets-là à l'Université de Californie à Los Angeles. Et il trouvait que parmi ceux qui défendaient la théorie de M. Golb, les argumentaires, le type de syntaxe étaient souvent les mêmes.
Oui.
Donc, il s'est dit, faisons une enquête, et il s'est mis à chercher les adresses IP de tous ces individus-là.
L'adresse IP, c'est l'adresse qui identifie
l'ordinateur
un
précis.
Un ordinateur en particulier,
oui,
c'est
chaque
ça.
Ordinateur a un endroit donné
à une adresse IP, oui.
Et donc, il a fait donc un travail de limier pour s'apercevoir qu'une cinquantaine de ces individus-là pointaient vers une personne qui habitait à New York, et qui était Raphaël Golb, qui lui-même est non seulement uniquement le fils, mais lui-même est un avocat, mais qui avait eu d'abord une formation doctorale en littérature comparée d'Harvard. Donc, c'est lui-même quelqu'un de formation avancée.
Donc, c'était le fils du chercheur en question qui soutenait son père, au fond.
Oui, sous 70
fausses identités.
Souvent, il allait à la bibliothèque de New York, parce que l'avantage, c'est que l'ordinateur de la bibliothèque de New York est un lieu précis, mais qui peut être utilisé par différentes personnes, bien sûr. Il utilisait son propre ordinateur à la maison et plusieurs ordinateurs à des endroits différents. Mais comme c'était toujours près de New York, par convergence, on a localisé. Et lui se doutait un peu que ça devait être son fils pour différentes raisons qui ne sont pas très importantes. Qu'est-ce que ça nous montre, ce fait divers? C'est qu'on prend pour acquis que dans un groupe de discussion, que ce soit sur la physique nucléaire, ceux qui interviennent...
Sur Darwin?
Sur Darwin.
Oui, par exemple.
Ceux qui interviennent sont soit des biologistes dans une université ou des étudiants en doctorat qui connaissent le sujet et qui ont une formation dans le domaine.
Mais quand c'est signé Yves Gingras, c'est Yves Gingras qui a fait le courriel.
C'est ce qu'on prend pour acquis, sans se poser de questions. Mm-hmm. Ce que ce fait divers nous ramène, c'est qu'il faut maintenant doubler d'attention. Et au fond, on n'y pense pas. Et ça peut avoir des conséquences. Dans ce cas-ci, ça donnait véritablement l'impression d'un mouvement en faveur des théories du professeur Golb, alors que
c'était simplement son fils qui trichait un petit peu. Donc, on a découvert le poteau rose et vous avez dit qu'il avait été arrêté, ce Raphaël Golb, donc le fils du professeur.
Oui, parce que la ville de New York a une loi. C'est pas le cas dans tous les États. J'ignore d'ailleurs si c'est le cas ici, je ne crois pas. Qui interdit de voler l'identité d'un autre, même sous forme électronique. Mm-hmm. Donc, c'est par ce biais-là, au fond, de vol d'identité électronique et de harcèlement qu'on a pu déposer une plainte contre lui. Et bien sûr, quand son père a appris ça, il a dit que, bon, il était un peu surpris et qu'effectivement, lui appuyait
c'était
pas nécessairement ça.
C'était une preuve d'amour filial un peu encombrante.
Exactement. Oui. Donc, il a essayé de défendre son fils en disant que, bon, il avait le droit de défendre l'opinion de son père, sauf que tous les autres chercheurs ont dit il n'y a aucun problème de faire la promotion de la théorie de M. Golb. Il suffit de dire que c'est son fils qui a le droit quand même d'avoir des arguments sur le net en son nom propre et en disant c'est pas parce que je suis son fils que je le défends avec des arguments qui pensent que sa théorie des origines du manuscrit de la mer morte est la bonne.
Alors, vous dites, Yves, il faut faire attention donc, à ces fameux groupes de discussion parce qu'ils sont importants, très vivants, très fréquentés hein, dans les milieux scientifiques et sur les, dans les débats scientifiques. Et donc, attention.
Aujourd'hui, la mode, je dirais, c'est des sondages sur toutes sortes de choses. Quand on va dans un groupe de discussion, on peut voir par sondage que la majorité va dans une direction pour s'apercevoir, comme c'est le cas actuellement, que ça cache, au fond, une cabale où plusieurs personnes peuvent utiliser différentes identités. Donc, c'est très, très important, surtout si on pense à des cas beaucoup plus dangereux, peut-être, comme la théorie darwinienne. Oui. Si les créationnistes se mettent à aller sur tous les groupes de discussion scientifiques pour promouvoir des théories comme Michael B.
Mais c'est un peu ce qu'ils font, quand même, oui.
Effectivement, ils le font aussi, et c'est ambigu. Donc, il faut se méfier de ce qui n'est pas signé de façon... Et d'ailleurs, c'est très intéressant, et ça peut en même temps, en un sens, quasiment nous servir de conclusion. Le propre père de Golb dit qu'au fond, effectivement, il devrait aujourd'hui, dans les groupes de discussion, y avoir des règles beaucoup plus strictes pour s'assurer de l'identification individuelle. C'est facile à dire, mais c'est peut-être pas si simple que ça à faire sur le plan des discussions électroniques, à moins que le modérateur demande l'identité avant de mettre sur le site le message qui a été envoyé. Donc, c'est une bonne idée, mais il n'est peut-être pas si facile
à mettre en application,
et ça donnerait plus d'ouvrage encore aux modérateurs qui, bien sûr, sélectionnent les messages pour s'assurer qu'il n'y a pas d'insultes adressées à des individus.
Eh bien, Viengras, je vous remercie pour ces conseils de prudence, modération, hein, face aux fameux sites de discussion sur Internet.
Merci.
Et voilà, c'est la fin de cette première heure des Années-Lumière. Ne manquez pas ce soir à la télévision de Radio-Canada à 18h30 l'émission Découverte. Entre autres reportages, les autobus hybrides diesel électrique qui permettent d'économiser au moins 30% de carburant dans les centres-villes mais qui sont bien moins attrayants sur les circuits de banlieue. Puis il y a aussi un reportage sur un mystérieux champignon qui tue des gens dans la région de Vancouver et sur la sommellerie moléculaire. Le sommelier François Chartier cherche l'accord parfait entre les mets et les vins depuis plus de 25 ans. Il a développé une approche sur le mariage des molécules aromatiques. Ça, c'est à la télé. En attendant, vous restez à la radio. Après les nouvelles, la suite des Années-Lumière.
Les années-lumière, deuxième heure. Deuxième heure, deuxième partie de votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villieu, toujours et l'équipe pour vous le présenter, ce magazine. Alors la deuxième heure, elle commence avec Hugues de Roussan et ses robots pharmaciens. Après le petit journal de la science, Sophie-André Blondin nous emmène près, pour ne pas dire dans, les volcans. Et pour terminer l'émission, Chantal Srivastava reçoit l'auteur de la semaine. Il s'appelle Édouard Launay. Il vient de publier aux éditions du Seuil un livre qui s'intitule « Au fond du zoo à droite ». Eh bien, pour gagner en temps et en sécurité, les pharmacies sont entrées dans l'ère de l'automatisation de la distribution des médicaments. Les pharmacies des centres hospitaliers, puis aussi les pharmacies qui ont pignon sur rue, se dotent de plus en plus de machines coûteuses qui permettent d'éliminer presque complètement l'erreur humaine quand vient le temps de préparer les prescriptions et de distribuer les médicaments. Alors, Hugues de Roussan, on connaît votre amour effréné pour les robots. Vous êtes allé donc voir une de ces machines-là.
Oui, Yannick, et c'est tout un robot que j'ai vu au CHUM, en fait, à l'hôpital Saint-Luc. Ce robot, on l'appelle le système de distribution unidose automatisé. Un nom qui, d'ailleurs, est aussi impressionnant que la machine elle-même. Alors, cette machine a coûté 6,5 millions de dollars si on tient compte de toutes ses composantes.
Et ça marche comment, Hugues?
Eh bien, c'est une machine de la grosseur d'un petit conteneur qui contient des milliers de pilules, de gélules, de comprimés qui sont en sachet à raison de une dose par sachet, d'où le nom unidose. C'est un ordinateur qui passe la commande, autrement dit, qui demande au distributeur d'aller chercher les médicaments qui sont prescrits par les médecins. Alors, j'ai rencontré Lynn Constantino, qui est pharmacienne et qui est chef adjointe au département de pharmacie du CHUM. La rencontre a eu lieu devant le distributeur automatisé de Saint-Luc et le bruit que vous allez entendre en arrière-fond, en fait, c'est le bruit du distributeur au travail.
Fait que les médicaments arrivent dans cette section-ci où il y a le robot, là, dans le fond, qui va préparer les médicaments. Ils arrivent sous une forme déjà emballée parce qu'ils ont eu, dans le fond, là, dans une autre pièce où que toute la section de l'emballage de chaque médicament. Donc, quand le médicament arrive près du robot, il est sous une forme prête à être inséré sur une porte, sur des tiges. Chaque médicament est inséré sur une porte, comme vous voyez ici. Puis, par la suite, les médicaments sont insérés dans le robot. Puis le robot, manuellement, va aller chercher chaque médicament sur la tige. Il va aller le porter là, avec le bon médicament en reconnaissant le code barre, la date d'expiration. Et le lot du médicament. Chaque patient est identifié. Le robot reconnaît l'identification du patient, puis va aller chercher les médicaments correspondants à ce patient-là pour une durée de 24 heures.
Quand on parle d'un robot, on ne parle pas d'un humanoïde avec des bras et des jambes, là.
C'est une sorte de tête qui se promène sur une tige avec un bras pivotant, dans le fond, qui va chercher par succion chaque médicament sur la tige.
Ça prend combien de personnes pour manipuler?
Il y a une personne par quart de travail qui manipule. Puis chaque patient, la médication pour un patient prend une minute pour préparer tous les médicaments par patient. Puis un robot comme celui-ci contient à peu près, peut contenir de 800 à 1000 sortes de médicaments. Qui correspond à peu près toute la totalité de nos médicaments là, qu'un centre hospitalier là, possède. Là. Il peut contenir autant des injectables que des médicaments pour être administré par voie orale. Fait que c'est pas seulement pour les comprimés ou les capsules. Ça peut être aussi là, pour des formes injectables. La machine même permet de... Quand il y a des médicaments que la date d'expiration est plus rapprochée, il va ramener les médicaments avec une date plus rapprochée vers l'avant de la tige pour, dans le fond, s'assurer que ces médicaments-là passent en premier versus les autres médicaments.
Lynn Constantino, donc, qui est pharmacienne au CHUM, le centre hospitalier de l'Université de Montréal. Alors, le CHUM, donc, c'est pas le premier à avoir fait ça, acheter une machine comme ça, mais qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à se doter de ce distributeur automatique, là, qui, vous l'avez dit, Hugues, c'est quand même pas donné, ça?
Oui, l'automatisation de la distribution devenait, en fait, incontournable pour le CHUM, qui voulait implanter son système Unidose dans ses trois centres, soit à Saint-Luc, Notre-Dame et à Hôtel-Dieu. Mm-hmm. Donc, le système vise à distribuer les médicaments à l'unité pour assurer un meilleur suivi de ce qu'on appelle le circuit du médicament, soit de la prescription à la prise du médicament par le patient. On écoute Denis Bois, qui est chef du département de pharmacologie au CHUM.
Où la robotisation est rentrée en compte, c'est tout le volet de préparation de médicaments à la pharmacie est fait en intégrant le système de code-barre, la lecture de code-barre pour chacune des doses administrées ou dispensées par la pharmacie. Et les robots prennent en charge toutes les activités routinières, extrêmement manuelles, là, qui sont laborieuses, qui sont reliées à un système de distribution unidose. Chacun des capsules va être identifié individuellement dans le sachet individuel avec un code barre et date d'expiration numéro de lot, ce qui nous permet de retracer chacun des médicaments qu'on peut livrer aussi dans l'hôpital. Et pour le personnel infirmier, on leur fournit le médicament sous une forme prête à emploi. Donc, ils n'ont plus à faire d'autres manipulations pour préparer et administrer le médicament. Ils ont le médicament directement dans la cassette qui est dédié à un patient, et donc à le prendre au chevet du patient, ouvrir le sachet et l'administrer. Et donc, notre système étant totalement robotisé, à partir de la commande informatique qui est donnée par le pharmacien lorsqu'il valide une ordonnance, l'humain n'est plus du tout mêlé à la distribution du médicament. La commande passe électroniquement au robot, qui, lui, le robot va faire la sélection du médicament en utilisant les codes-barres, donc 0% de chance d'erreur, et va même préparer les cassettes des patients. Donc, tout ça est fait de façon robotisée, avec un taux de précision, je vous dirais, de 100%. Ce qu'un être humain ne peut pas atteindre dans les meilleures conditions. On n'arrive jamais à un taux comme ça, là. L'impact que ça donne pour le pharmacien, c'est une espèce de tranquillité d'esprit. Le pharmacien peut se concentrer sur la validation de ses ordonnances et la validation pharmacologique de ses ordonnances, et il est certain que le bon médicament va se rendre au patient. Alors que quand on dans un système traditionnel, on peut bien faire notre travail, mais il y a d'autres dans les processus par la suite, il y a quand même des points de relais là, où il y a des risques d'erreur, alors que dans ce cas-là, il n'y en a plus. Donc c'est plutôt ça qui fait que les pharmaciens sont plus professionnellement sont en plus en sécurité.
Ça a ajouté dans vos outils de travail. Et au bout de la ligne, est-ce que ça coûte plus cher que l'ancien système? D'accord, vous avez une amélioration de la sécurité, mais est-ce que ça vous coûte plus cher? Est-ce que la sécurité vous coûte plus cher?
Bon, en fait, c'est sûr que là, on parle d'un plan d'affaires qui, en fait, c'est de l'évitement de coûts. Par exemple, ici au CHUM, pour implanter au-delà de 1200 lits, un système Unidose, il aurait probablement fallu rajouter beaucoup de personnel à la pharmacie, et nous, on l'a fait avec le personnel existant. C'est là la différence. Donc, est-ce que ça coûte plus cher? Je vous dirais, en fait, c'est une redistribution des coûts, parce qu'au niveau de la pharmacie, oui, ça coûte plus cher parce qu'à cause de l'achat d'équipements, l'acquisition d'équipements, on n'a pas rajouté de personnel, par contre, pour le faire. Là où il y a eu des gains, des économies importante, c'est au niveau du temps pour les infirmières qui, auparavant, pouvaient prendre jusqu'à une heure par jour pour préparer et administrer les médicaments. Et avec ce système-là, maintenant, vont prendre que 30 minutes à peu près pour chaque infirmière, ce qui est une économie substantielle de temps. Est-ce que ça s'est traduit par des économies en dollars? Non, parce que ce temps-là a été plus redéployé auprès des patients, aux soins des patients. Ce qui aurait dû, d'ailleurs, je pense que c'était requis aussi, là.
Denis Bois dirige le département de pharmacologie du CHUM. Il faut dire, Hugues, que c'est, y a pas seulement les gros centres hospitaliers qui se dotent de ces machines-là de distribution automatisée. Il y a des pharmacies qu'ils font également.
Oui, les machines sont toutefois plus petites, moins complexes et quand même moins chères, mais elles permettent aussi de réduire les erreurs et de sauver du temps. Roger Simard, il est pharmacien dans l'ouest de l'île de Montréal, et lui, il a acheté une ensacheuse, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour desservir une clientèle qui vit dans les centres de personnes âgées. Cette machine prépare automatiquement dans des sachets les prescriptions, soit pour une journée, une semaine ou un mois.
Vous savez que si vous n'avez pas d'appareil et que vous devez emballer ou remettre les médicaments dans des systèmes de piluliers, les médicaments vont être mis manuellement dans ces systèmes, qui sont généralement des alvéoles plastifiées. Alors, il y a une composante temps qui est importante, mais il y a aussi la composante concentration, c'est-à-dire que si vous avez un grand nombre de résidences ou un grand nombre de patients, vous devez être extrêmement vigilant quand vous allez sélectionner le médicament qui doit aller dans chaque alvéole. Il se produit, d'après les résultats, des erreurs de l'ordre de 10 % lorsqu'on fait les piluliers de façon manuelle, alors qu'un appareil comme une ensacheuse telle que celle qu'on a, ça réduit le taux d'erreur à 0,1 %. Et le type d'erreur est aussi très important à garder à l'esprit parce qu'il peut y avoir, lorsqu'on le fait manuellement, des erreurs de médicaments, alors que l'ensacheuse, elle, n'aura pas ce type d'erreur-là. Elle ne fera pas d'erreur sur le choix du médicament. Elle peut faire une erreur sur le bon médicament placé au mauvais endroit dans la journée, mais elle ne mettra pas le médicament X à la place du médicament Y si, quand on lui en a donné l'ordre, on lui a demandé le médicament X. Elle ne fera pas d'erreur de ce type-là. À moins qu'encore une fois, une erreur humaine se soit produite lorsqu'on a réapprovisionné une cassette, qu'on a mis le médicament Y dans la cassette X, la machine ne peut pas le déterminer.
Alors bien sûr, cette machine à ensacher les médicaments, Hugues, ça diminue le nombre d'erreurs, c'est ce qu'on vient d'entendre, mais ce n'est pas le seul bénéfice. Hein.
Non, elle fait quand même d'autres choses. Elle permet notamment d'éviter toute contamination des médicaments par les mains et surtout, elle donne du temps aux pharmaciens pour effectuer d'autres tâches reliées à sa profession. On écoute à nouveau Roger Simard.
Autant que l'informatique nous a libérés puis a aussi augmenté la précision de nos interventions, autant ces appareils-là nous permettent de consacrer notre temps à d'autres tâches qui, elles, sont plus motivantes et à des tâches cognitives. Donc, ce qu'il faut, c'est de voir l'utilisation de ces appareils-là pour libérer du temps de pharmacien, pour que le pharmacien puisse offrir un service de meilleure qualité à la clientèle. Par exemple, remplir un pilulier pour une personne qui prend entre 6 à 8 médicaments peut prendre 5 à 10 minutes par pilulier par semaine. Donc, l'appareil va le faire en 1 minute 10 secondes. Alors déjà là, vous voyez que dans une année, quelqu'un qui aurait 300 résidents de maisons d'accueil, par exemple, de centres d'accueil, verrait le temps de technicien diminuer d'un facteur assez important. Et ce temps de technicien-là, peut être utilisé pour libérer le pharmacien de tâches que le pharmacien ne devrait pas être tenu de faire.
Il fait quoi
comme
avec
la vérification, par exemple, la vérification des piluliers demande beaucoup plus de temps que la vérification des sachets. C'est beaucoup plus facile de vérifier les sachets que de vérifier les piluliers. Donc, plus on sauve du temps comme celui-là, et nous, notre but ici, la raison pour laquelle on a démarré notre entreprise de pharmacie avec un appareil, ce qui est assez peu commun, parce que la plupart du temps, les gens le font lorsque le volume est extrêmement important. Nous, on a décidé de commencer avec cette technologie parce qu'on a décidé d'automatiser à tous les endroits où on pourra le faire pour libérer le pharmacien puis lui permettre d'effectuer des tâches cognitives. Mais dans un système de santé comme celui du Québec présentement, où les médecins ont de la difficulté à voir leurs propres patients sur une base annuelle. Maintenant, on est de plus en plus sur une base de 18 mois. Il y a 30 % de la population qui n'a pas de médecin. Bien, si le pharmacien, on le libère justement en automatisant le plus possible les tâches qui sont manuelles, bien, le pharmacien va pouvoir jouer un rôle qui, à mon avis, va avoir un impact considérable sur le système puis sur la qualité des soins que la population désire.
C'était Roger Simard, qui est pharmacien à Montréal. Alors, Hugues, est-ce qu'on peut imaginer qu'on pourrait aller plus loin dans l'automatisation?
En fait, oui, Yannick, un peu plus loin, notamment dans les hôpitaux ou dans les centres de personnes âgées. L'infirmière éventuellement lira avec un balayeur numérique le code-barre qu'on retrouve sur les sachets de médicaments. Ainsi seront enregistrées automatiquement des informations comme le nom du médicament, la posologie, l'heure et le jour où il a été pris. Autre étape encore pour augmenter l'automatisation, notamment dans les hôpitaux, l'infirmière va passer son balayeur numérique sur le bracelet qu'on retrouve au poignet des patients hospitalisés pour y lire le code-barre, ce qui confirmera hors de tout doute que c'est le bon patient.
Ce qui est effectivement une bonne idée. Merci beaucoup, Hugues.
Merci.
C'est un astrophysicien qui remporte le premier titre d'internationaliste de l'année, un prix dorénavant décerné par le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal. Claude Carignan a signé plus de 140 articles scientifiques et dirigé le Centre de recherche en astrophysique du Québec et l'Observatoire du Mont Mégantic. Mais c'est son travail au Burkina Faso qui a retenu l'attention du jury. Après avoir construit un observatoire d'enseignement sur le campus de l'Université de Ouagadougou, Claude Carignan forme sur place les premiers doctorants en astrophysique. Il organise en plus le déménagement d'un télescope d'un mètre du Chili vers le Burkina Faso. En 2010, Claude Carignan invite les experts de l'Union astronomique internationale à converger vers Ouagadougou pour souligner la naissance de l'astrophysique en Afrique subsaharienne, naissance à laquelle il aura grandement contribué.
Les astronautes américains pourraient manger des légumes frais au lieu de se contenter de poudre déshydratée et de pâte en tube quand ils retourneront sur la Lune, en principe, à compter de 2020. Une firme privée basée à l'Université d'Arizona a mis au point une serre lunaire en forme de cloche tubulaire encastrée dans un trépied d'aluminium à l'intérieur de laquelle pousseront des légumes. Les premiers essais sont prévus en 2012 et c'est une autre société privée qui lancera la serre vers la Lune dans le cadre d'un concours du géant américain de l'Internet Google qui offre un prix de 20 millions de dollars à celui qui réussira le premier à faire atterrir et à déplacer un robot sur la Lune. La serre miniature emportera avec elle des graines de choux de Bruxelles, un légume qui germe et qui fleurit en 2 semaines. À quand la première recette lunaire aux choux de Bruxelles?
Elle va au labo tous les jours. Elle s'occupe d'une association d'aide aux femmes africaines. Elle est sénatrice senior au Parlement italien. Et elle a soufflé le 22 avril, ses 100 bougies. Cette centenaire hors du commun s'appelle Rita Levi-Montalcini. Elle a écrit des centaines d'articles scientifiques, publié plus de 20 livres et découvert au début des années 1950 le NGF, le Nerve Growth Factor, le facteur de croissance des cellules nerveuses. Cette découverte lui a valu en 1986 le prix Nobel de médecine et c'est la première fois dans l'histoire qu'un ou une lauréate du Nobel atteint cet âge vénérable. Le NGF orchestre la formation du système nerveux dès les premiers moments du développement de l'embryon. Il est aussi impliqué dans la survie des cellules nerveuses chez l'adulte. Madame Levi-Montalcini dit qu'actuellement, elle vit probablement la meilleure période de sa vie. Sans doute parce qu'elle connaît mieux que quiconque les secrets de ce merveilleux facteur de croissance des cellules nerveuses.
Vivre près des volcans, c'est avoir des voisins qui sont gros, qui sont beaux et qui sont dangereux. Claude Jopard le sait, il a détecté 7 erreurs, 7 péchés, comme il dit, que commettent les humains dans leur voisinage avec les volcans. Claude Jopard n'est pas volcanologue, mais c'est un spécialiste du fonctionnement des volcans. Il est récemment membre de l'Académie des sciences de l'Institut de France, professeur à l'Institut de physique du globe de Paris. Il collabore aussi régulièrement avec des chercheurs québécois du Géotop. Il est venu à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, prononcer une conférence au terme de laquelle Sophie-André Blondin l'a rencontré pour discuter de cette cohabitation forcée entre les hommes et les volcans. Et voici donc leur entretien.
Je suis pas vraiment volcanologue dans la mesure où je vais assez peu sur le terrain. Donc les volcanologues, je pense, ne seraient pas contents si je m'appelais volcanologue. J'essaye de voir quelle est la physique des volcans, comment est-ce qu'ils fonctionnent, trouver des principes qui s'appliquent à plus qu'un seul volcan. Donc je me base sur les observations, sur les études que font les volcanologues de terrain. Mais moi-même, je suis d'ailleurs pas très bon sur le terrain. C'est un talent très particulier que je n'ai pas. Par contre, j'ai besoin de leurs études. Et de temps en temps, je vais avec eux pour observer des éruptions, observer des structures volcaniques fossiles. Mais je peux pas vraiment m'appeler volcanologue.
Regarder, observer les volcans, c'est important parce que, qu'il le veuille ou non, l'homme doit vivre près des volcans. Notre cohabitation est inévitable.
Oui, les volcans font partie du fonctionnement de notre planète. D'ailleurs, ils nous rendent beaucoup de services. Non seulement ils nous produisent des terres fertiles, mais ils renouvellent la peau de la Terre. Donc, c'est pas simplement des symptômes dangereux, c'est aussi des choses qui nous servent et qui nous permettent de survivre à l'échelle de plusieurs générations. Donc, les volcans sont utiles. Si on apprend à les comprendre, on peut vivre à côté, comme l'ont fait les populations de la Sicile, comme l'ont fait les gens qui habitent Naples. On a des tas d'exemples de populations importantes qui ont survécu et très bien, même qui ont fleuri à côté de volcans.
Oui, parce que quand vous parlez de la fertilité, cette lave apporte une fertilité particulière autour des volcans.
Mais oui, il y a des tas d'exemples de civilisations qui se développent sur des sols volcaniques qui sont très fertiles. Les sols volcaniques, en général, sont poreux, donc l'eau est retenue là-dedans, donc l'eau, c'est nécessaire pour l'agriculture. En plus, ce sont des terres nouvelles qui apportent tous les éléments nécessaires à une bonne agriculture. Donc les terrains volcaniques sont très fertiles, et c'est comme ça, par exemple, que se sont développées des civilisations entières. On peut citer les Étrusques en Italie, qui se sont développés grâce à une agriculture florissante.
Et ici même, en Amérique du Nord, on doit une bonne partie de notre richesse ou de nos richesses minières, entre autres, à la présence des volcans.
Oui, mais c'est grâce aux volcans qu'on peut concentrer les espèces minérales dans des gisements. Donc, faut imaginer qu'un système volcanique, c'est un système qui est perméable, avec de l'eau qui circule. L'eau, elle tombe en profondeur, elle s'échauffe. Quand elle s'échauffe, elle dissout certains éléments, elle remonte vers la surface. En refroidissant, elle redépose ces éléments. Et donc, vous faites marcher ça pendant 10 000, 100 000 ans, et vous avez des dépôts d'or, des dépôts de nickel, de cuivre, et c'est cela que l'on exploite au Canada à l'heure actuelle.
Est-ce qu'on les voit tous? Est-ce qu'on les connaît tous? Est-ce qu'on peut tous les observer?
La plupart des volcans qui sont actifs sur Terre, en fait, sont sous le niveau des mers, on les voit pas. Ce sont les volcans qui sont sur les dorsales océaniques, qui sont par plus de 2000 mètres de fond. Et donc, faut bien voir que toute cette surface énorme, qui est la plus grande surface sur la Terre, est en fait faite de lave. Donc, c'est là le système volcanique le plus important. Alors, on les voit pas, c'est sous nos yeux, mais c'est une activité volcanique qui est extrêmement importante et qui nous échappe. Il y a des volcans qu'on connaît mal. Par exemple, en Antarctique, il y a le mont Erebus, qui est quand même très loin de nous et qui perce à travers la calotte glaciaire de l'Antarctique. Celui-là, il est mal connu, mais enfin, il est visible. Et puis, il y a des volcans qui sont plus subtils. J'ai parlé dans ma conférence du volcan des Champs Flégréens, qui est le volcan près de Naples, qui est en fait c'est le golfe de la ville de Pozzuoli, et en fait c'est un ancien volcan qui n'a laissé qu'une dépression. Donc si on associe les volcans à des beaux cônes magnifiques qui fument de temps en temps, et bien on se trompe. Parfois les volcans les plus dangereux, c'est là où il y a des grands trous dans le sol.
Il faut donc que l'homme apprenne à cohabiter avec ça, et vous considérez qu'il y a 7 péchés que l'homme commet dans sa cohabitation avec les volcans. Puis, si vous voulez bien, on va passer en revue, on va ouvrir le catéchisme et on va passer en revue ces 7 péchés que l'homme commet, en commençant par le premier péché, l'oubli.
Périodiquement, le globe connaît des éruptions extrêmement dévastatrices. On peut citer par exemple l'éruption du Tambora en 1815, c'est une éruption qui a créé des perturbations climatiques énorme, qui a fait que l'année 1816 était une année qu'on a appelée sans été. L'éruption elle-même a fait 80 000 morts, mais les dommages sont beaucoup plus larges que ça, puisque ça a créé une famine. Il y a eu du choléra en Inde. L'année sans été, ça a tué beaucoup plus de personnes que les 80 000 qui ont été tuées directement. Lorsque cette éruption a lieu, elle a beaucoup secoué les gens se sont excités, on a regardé, et puis 20 ans après, on remarque que la tension retombe. Donc si un nouveau Tambora se reproduisait à l'heure actuelle, on ne serait pas préparé. Beaucoup de personnes dans le globe ne sauraient pas qu'ils risquent de voir leur vie changer à cause d'un volcan qui peut être aux antipodes, parce que c'est tout le globe qui est affecté. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est dangereux, parce que les volcans les plus énormes sont aussi les plus rares, et il ne faut pas les oublier, parce que si on les oublie, on risque d'avoir de mauvaises surprises.
Premier péché, donc, l'oubli. Deuxième péché capital dans notre cohabitation avec les volcans, l'ignorance.
Alors, les volcans, maintenant, on a quand même des outils pour voir les éruptions venir. Donc, le magma, puisqu'il doit arriver à la surface, eh bien, il prend du temps. Donc, c'est pas comme un tremblement de terre qui peut se déclencher sans signe précurseur. avant qu'une éruption se produise, il faut d'abord que le magma franchisse quelques kilomètres de roches. Et il le fait en cassant les roches, ce qui induit des tas de petits séismes, des déformations, donc des phénomènes qu'on sait mesurer. Le problème, c'est que lorsque l'éruption va avoir lieu, elle peut changer de régime très brutalement. Une éruption peut commencer très calme et brutalement se muer en une explosion dévastatrice. Donc les éruptions sont des phénomènes assez instables qui peuvent changer de caractère brutalement. Donc si on ne sait pas ça, on a des exemples dans le passé où des gens voient un volcan rentrer en éruption. L'éruption a l'air calme, donc il reste. Il se dit, ah bah, tiens, c'est une éruption, mais ce n'est pas grave, puisque finalement, j'ai de la lave qui s'écoule du sommet, bah, c'est pas dangereux. Et bien, de temps en temps, ça peut se muer en explosion extrêmement dévastatrice. Donc si on ne sait pas ça, ça conduit les gens à rester au voisinage du volcan et se faire tuer. Il y a plein d'exemples comme ceci. L'éruption du Krakatoa en 1883, l'île de Krakatoa qui est une île énorme, qui a sauté complètement, il est resté une grande dépression, l'île a disparu après cette éruption-là. Eh bien, l'éruption avait commencé plusieurs mois auparavant, et tous les gens autour du détroit de la Sonde, puisqu'il y avait ce beau volcan en éruption, ils sont restés au voisinage, ils regardaient ça, c'était beau, tous les matins on allait voir les explosions du volcan, ils sont restés, et tous les gens qui étaient près des côtes, qui étaient venus voir cette éruption, qui donnait un beau spectacle, bien, ils ont tous été tués. Ça fait plusieurs dizaines de milliers de morts parce que des gens sont restés alors que le volcan était en activité.
Troisième péché capital, Claude de Jopard, la négligence.
Alors, lorsqu'un volcan entre en éruption, il y a un certain nombre de précautions à prendre et qui ne sont pas forcément extrêmement coûteuses. Il y a plein d'exemples où, lorsque le volcan entre en éruption, ben, les gens ne font rien, aucun investissement, aucune préparation. Et des préparations même minimes, ne serait-ce que des efforts d'éducation de la population pour leur dire « Attention, le volcan va rentrer en éruption, il faut évacuer. » Ça ne coûte pas cher, c'est simplement faire des réunions d'information, propager l'information, préparer les gens. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut faire à faible coût. Ben, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, ces efforts minimes ne sont pas faits. Donc cette négligence, elle est coupable, puisque ça conduit à des tas de morts. Il y a un exemple que j'ai cité, qui est l'exemple du Nevado del Ruiz en Colombie en 1985. C'est un volcan qui a fait une toute petite éruption. Ce volcan est dangereux, parce que comme il est en altitude, ses sommets sont recouverts de neige et de glace. Et même si c'est une petite éruption, eh bien, les cendres et les laves qui sortent du volcan conduisent à la fonte des neiges et de la glace, ce qui fait des coulées de boue qu'on appelle des lahars. Ces coulées de boue dévalent les pentes et en général canalisées par les vallées. Et dans les vallées, eh bien, il y a des villages. Et donc, ces coulées de lahars peuvent dévaster des villages entiers. C'était connu dans cette région. Il y avait un village qui s'appelait Armero, qui avait 20 000 habitants, qui était construit sur un dépôt de lahars. Donc, les gens le savaient. Le volcan est rentré en éruption. Les autorités ont été prévenus, elles ont dit « Oh, bah, écoutez, on va voir, on verra bien demain. » Tout le village a été dévasté, toutes les personnes sont mortes. Ça, c'est la négligence terrible parce qu'on avait des exemples, les gens ont été prévenus, mais ils ont pensé qu'ils auraient le temps de réagir, qu'on pouvait toujours remettre ça au lendemain, etc. Donc ça, c'est une attitude extrêmement courante. Ce qui se produit, c'est qu'on n'arrive pas à s'habituer à ce que la catastrophe arrive très très rapidement. On pense qu'on va voir la situation empirer, jusqu'au moment où on dit « Ah oui, là maintenant ça devient dangereux ». Non, ça passe brutalement d'un régime tolérable à la catastrophe.
Ça c'est pour la négligence. Passons maintenant au quatrième péché, le péché d'imprudence. Expliquez-nous.
Alors, certaines éruptions peuvent avoir l'air relativement calmes. Moi, je me souviens, je suis allé voir une éruption de l'Etna il y a quelques années. Donc, l'Etna était en éruption assez explosive, mais de loin, ça avait l'air d'être un jet qui se projetait très bien. Donc, j'ai voulu m'approcher parce que ça m'intéressait. Alors, cette éruption n'est a priori pas très dommageable, mais ça projetait des blocs qui font plusieurs mètres. Donc, c'est des blocs qui pèsent plusieurs tonnes. Et je me suis rapproché du volcan et il y a un bloc qui est tombé à 50 mètres de moi. Donc, si j'étais tombé dessous, je serais mort. Donc, en fait, même des manifestations qui ont l'air relativement bénignes sont mortelles.
Et même pour les savants et même pour les spécialistes.
Alors, il y a des exemples de savants qui se sont aventurés sur des volcans. Le volcan était un volcan en activité, mais le volcan n'était apparemment pas très dangereux. Des signaux précurseurs ont été ignorés. Donc, il y a un exemple très célèbre qui est l'exemple du Galeras en Colombie, qui est un volcan qui rentre en éruption en 1993, si je me souviens bien. Et il est rentré en éruption alors que des scientifiques étaient en train de se promener sur le cratère. Donc, tous ces scientifiques sont morts.
Ils étaient 15, hein?
Alors, il y a eu plus de ça, mais il y a eu 15 morts, oui.
Continuons donc ce voyage au pays des péchés que commet l'homme dans sa cohabitation avec les volcans. L'homme pêche par avarice par rapport aux volcans. Comment est-ce possible?
Eh bien, en fait, pour détecter des éruptions, ça ne coûte pas très cher. Il suffit de disposer quelques petits appareils qu'on peut trouver dans le commerce et qui ne sont pas chers. Un sismomètre, c'est un appareil qui détecte les vibrations du sol, ces vibrations qui sont en général engendrées par le magma qui fraye son chemin vers la surface. Donc, pour les détecter, c'est des appareils qui coûtent quelques milliers de dollars. Donc, vous pouvez mettre sur un volcan, même dans un pays qui est pauvre, même auprès d'un village, pour quelques milliers de dollars, vous pouvez déployer des instruments qui vous permettront de voir que le magma est en train de se déplacer. Donc c'est un coût extrêmement petit. Donc il est étonnant que beaucoup de pays n'ont pas fait cet effort minimum pour instrumenter leur volcan. Ça ne coûte pas cher et ça permet de voir venir la catastrophe. Donc on peut vraiment parler d'avarice parce que c'est vraiment des coûts extrêmement faibles, plus faibles que le salaire d'un employé de mairie.
Ou que quelques pays plus riches n'aient pas collaboré, coopéré avec les pays plus pauvres aussi.
C'est ça. Alors, les pays riches, en fait, sont un peu coupables dans la mesure où on pourrait surveiller tout le globe avec des satellites bien disposés. Donc maintenant, avec les techniques de satellites, on verrait les déformations qui annoncent une éruption volcanique à relativement peu de coûts, avec des satellites qui soient avec des orbites suffisantes pour pouvoir, évidemment, avoir une répétition au-dessus de tous les volcans suffisamment. Si vous avez un satellite qui repasse sur le volcan tous les 100 ans et qu'entre deux passages, il y a eu une éruption, vous n'avez rien gagné. Donc il faut des satellites qui circulent suffisamment rapidement pour que vous puissiez voir les volcans changer d'une année à l'autre. Donc ça ne coûterait pas très très cher, mais les agences internationales n'ont pas encore fait cet effort, donc il faudrait le faire. Ça coûterait évidemment plus cher que de déployer quelques petits appareils, mais c'est un effort qu'on est tout à fait capable de faire, qui est partiellement fait, mais qui n'est pas fait complètement.
Claude Jopard, et quand vous parlez des volcans, vous parlez de phénomènes qui sont au-delà de l'échelle humaine, mais parmi les péchés que l'humain commet par rapport aux volcans, il y a des péchés qui sont tout à fait à l'échelle humaine, et ce sont les péchés de conflit de personnes.
Alors oui, comme toute activité scientifique passe par le débat. Donc la science, on n'arrive pas dans les systèmes naturels à prouver qu'en général qu'une théorie est vraie. On peut prouver qu'une théorie est fausse. Donc tout l'exercice que font les scientifiques, c'est d'élaborer des théories. Et évidemment, un scientifique tient beaucoup à cette théorie. En général, c'est associé à une méthode. Il y a des chimistes, des physiciens, des géologues. Chacun a sa méthode de travail. Et comme c'est un exercice extrêmement personnel, puisqu'il faut inventer une théorie, on se met à fond là-dedans. Donc des personnalités très fortes se mettent à croire qu'ils ont la vérité infuse. Et croient en plus que la méthode qu'ils ont, c'est la meilleure, c'est la seule, et se mettent à mépriser les autres. Donc lorsqu'un volcan commence à donner des signes d'activité, parfois vous assistez à des réunions de grands scientifiques qui se mettent en conflit, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils défendent des points de vue différents, ils ont des théories différentes, et ça, évidemment, en cas de crise, c'est une très mauvaise chose, parce que ça retarde le débat, ça donne aux administrations et aux populations locales l'impression qu'on ne comprend pas ce qui va se passer, donc il faut éviter ça. Il y a des cas célèbres où on n'a pas réussi à l'éviter, et où au contraire, des personnalités sont rentrées en conflit ouvert devant les populations ébahies, de voir ces savants vénérables à la barbe blanche s'étriper, alors que le volcan est en train de fumer derrière eux.
Avec des conséquences funestes, peut-être.
Avec des conséquences funestes, oui, parce que ça retarde les efforts, ça inquiète les gens et puis ça paralyse les autorités.
Alors, un conflit dont vous avez parlé dans votre conférence, c'est celui qui a opposé Haroun Taziev et Claude Allègre.
Oui, alors c'est un conflit célèbre qui est encore ressenti durement en Guadeloupe. La Guadeloupe a un volcan qui s'appelle la Soufrière, qui est un volcan actif, qui fait des éruptions qui ne sont pas très dangereuses depuis un certain temps, mais qui en a fait des dangereuses dans le passé. Donc, en 1976, la Soufrière a donné des signes de réveil. Et donc, là sont arrivés Haroun Taziev, célèbre volcanologue, qui connaissait les volcans parce qu'il les avait arpentés partout dans le monde. Et Claude Allègre, qui était responsable des observatoires volcanologiques français et de l'Institut de physique de Paris, qui avait la charge de la surveillance de ce volcan-là. Claude Allègre est un chimiste, un physicien. Il ne passait pas sa vie à arpenter les volcans parce qu'il développait les techniques de mesure dans son laboratoire. Taziev, lui, au contraire, arpentait les volcans, les connaissait. Et donc ces deux personnalités sont rentrées en conflit, alors qu'ils avaient des points de vue qui étaient à beaucoup d'égards complémentaires. Donc ça a créé une grosse confusion sur place, et ça a ralenti les efforts, et ça a surtout donner l'impression aux populations que la situation était hors de contrôle, ce qui était une très mauvaise chose. Donc ça a laissé des traces. Et donc le gros problème, c'est que si la Soufrière se met de nouveau à donner des signes d'activité, eh bien on devra gérer une situation qui est beaucoup plus difficile parce qu'on aura la mémoire de cet épisode malheureux.
Et ça nous mène au septième des sept péchés capitaux que commet l'humain face au volcan. Et c'est un péché d'étroitesse d'esprit. Alors, c'est dans la tête des humains qu'il y a des problèmes aussi, des fois, dans les valeurs des humains.
Certaines éruptions volcaniques, en fait, peuvent affecter le globe tout entier. On a des exemples dans le passé. Quand les éruptions volcaniques sont violentes, elles projettent dans la haute atmosphère des particules et aussi du gaz sulfurique. Et ce gaz se transforme en brouillard. Et c'est des très très fines gouttelettes d'acide sulfurique qui sont dans l'atmosphère. Et ce qui conduit, en fait, à empêcher les rayons du soleil de pénétrer jusqu'au sol. Donc ce que ça conduit, c'est comme si on mettait une couverture dans l'atmosphère. Et donc, brutalement, le globe, en fait, ne reçoit plus la même intensité des rayons solaires. Donc ça conduit à un refroidissement, des mauvaises récoltes, un changement climatique. On a des exemples récents où on peut voir cet effet se produire, qui est relativement mineur parce que les éruptions récentes sont des éruptions assez faibles, mais dans l'histoire de la Terre, on en a eu des grosses qui ont eu des effets climatiques avérés. Donc l'étroitesse d'esprit, c'est se dire le volcan qui explose en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ça concerne les Papous, ça ne me concerne pas, c'est faux. Beaucoup d'éruptions volcaniques auront des conséquences à l'échelle du globe. On peut citer aussi tout simplement, par exemple, des éruptions qui pourraient affecter les Açores ou les Canaries, qui sont des îles dans l'océan Atlantique. Si ces éruptions-là ont lieu, plus de transport aérien pendant quelques mois, voire quelques années, entre l'Europe et l'Amérique. Donc, les éruptions ont un impact à l'échelle globale, et il faut prendre la mesure de ça, et beaucoup d'organismes ne prennent pas la mesure de ça. C'est une éruption volcanique, ça ne concerne pas que le pays dans lequel elle se produit, ça concerne le globe tout entier.
Quand on vous écoute parler de ces péchés capitaux qu'on commet dans notre cohabitation avec les volcans, on voit toute la passion. Pourquoi les volcans, pour vous, personnellement?
D'abord, ce sont des phénomènes magnifiques. Une éruption volcanique, c'est certes dangereux, mais c'est très beau. Vous sentez des forces qui vous dépassent, mais elles vous dépassent pas tant que ça. Ce qui me fascine, moi, personnellement, c'est que ce sont certes des bêtes énormes, mais qui obéissent à une certaine logique. Et finalement, arriver à trouver comment elles fonctionnent, c'est un grand plaisir. C'est ça l'expérience scientifique. C'est une grande aventure dans laquelle on voit un phénomène qui a l'air énorme, mais finalement qui obéit aux lois de la physique que l'on peut reproduire au laboratoire chez soi. Donc, de voir qu'on peut réduire ces monstres à quelques petits principes simples, c'est une grande joie.
Claude Jobard, merci beaucoup de cette entrevue.
Je vous remercie.
Sophie-André Blondin interviewait Claude Jobard, qui est membre de l'Académie des sciences de l'Institut de France et professeur à l'Institut de physique du globe à Paris.
Ici Dominique Lapointe, le réalisateur des Années-Lumière. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous laisser vos questions de science. De Montréal, vous composez le 514-597-6166, 597-6166. De l'extérieur de la région métropolitaine, un numéro sans frais, le 1-800-752-9050, 752-9050. Et soyez patient, une bonne question trouve toujours une bonne réponse.
L'auteur de la semaine maintenant, après nous avoir emmenés au fond du labo à gauche et nous avoir proposé viandes froides et cornichons, sans oublier sexe machin, le journaliste scientifique Édouard Launay récidive avec un quatrième titre. Avec beaucoup d'humour et une plume bien acérée, il nous fait découvrir le fabuleux monde des animaux vu par la lorgnette de la science. Son livre s'intitule « Au fond du zoo ». À droite, c'est paru dans la collection Science Ouverte, au Seuil, et à l'invitation de Chantal Srivastava, Édouard Launay est allé dans notre studio à Paris pour parler de son livre. Il explique tout d'abord pourquoi il a choisi, cette fois-ci, de raconter des histoires drôles sur la zoologie.
On pourrait croire effectivement qu'on sait à peu près tout de la nature des animaux, des plantes, mais c'est absolument pas le cas. D'abord parce qu'on continue à découvrir des espèces vivantes à raison d'environ 17 000 par an, 17 000. Et que d'autre part, même les espèces qu'on croit connaître, comme je sais pas, le lion, le zèbre ou la coccinelle, en fait, il reste beaucoup de sujets de recherche dessus.
Et il y a des sujets de recherche qui ont l'air comme ça, somme toute, assez insignifiants, mais sur lesquels on a beaucoup, beaucoup écrit. Et vous en parlez abondamment, donc, dans ce livre, au fond du zoo à droite. Alors, l'ampleur du corpus, M. Launay, qu'est-ce que vous avez eu comme matière à décortiquer pour produire ces 60 et quelques petits bijoux de textes?
Ben, énormément de revues spécialisées en zoologie. Alors, en zoologie elle-même, ça se subdivise après en quantité de spécialités. Alors, j'ai pas lu tous les exemplaires de toutes les revues de toutes les spécialités, mais je crois que j'en ai quand même lu un paquet. J'ai passé un an et demi à essayer de dénicher la perle rare, l'article qui va parler à tout le monde et qui nous apprend quelque chose de cocasse sur les animaux.
Et un peu sur nous aussi, hein, parce que je pense que la fascination que tout un chacun a pour le monde animal tient du fait qu'on a l'impression qu'ils nous ressemblent un petit peu ou on s'identifie à eux parfois.
Ah oui, ça, je vais vous faire un aveu. C'est beaucoup plus simple de parler d'animaux que de physique nucléaire, par exemple. Parce qu'il y a forcément un peu d'anthropomorphisme. Il y a des choses qui nous parlent plus directement que, je ne sais pas, le boson W.
Alors, M. Launay, votre histoire de science animale préférée dans toutes celles que vous avez lues, vues et sur lesquelles vous avez écrites et qu'on retrouve dans ce recueil, quelle est-elle?
Moi, j'aime beaucoup cette étude anglaise, étude sérieuse, parue dans une revue sérieuse, qui a consisté à savoir si un éléphant pouvait devenir ivre. Cette équipe anglaise n'est pas partie de rien. Il se trouve que parfois, quand on est dans la jungle, ou dans la savane tout au moins, ce qui m'arrive assez rarement, mais il paraît qu'on voit des éléphants tituber. Alors, pourquoi titubent-ils?
On a l'impression que c'est parce que la trompe à l'avant fait le ballon. Non?
Ah, alors voilà une étude intéressante à faire.
Anecdotique, mais...
Je ne sais pas si elle a été faite. Mais les savants en question sont partis d'une autre hypothèse. Il se trouve que l'éléphant mange beaucoup de petits fruits tombés par terre, des prunes d'Afrique, et qui parfois fermentent. Et donc, comme elles fermentent, il y a de l'alcool.
Une petite eau de vie, c'est ça?
Ben, voilà, une petite prune, comme on dit chez nous. Alors, si l'éléphant mange plusieurs kilos... voire dizaines de kilos, peut-il devenir ivre? Question posée à la science. Réponse, alors on n'a pas pris un éléphant, on a fait des choses beaucoup moins drôles qui ont consisté à faire des calculs pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait, combien de prunes un éléphant devrait-il manger pour devenir ivre. Alors je n'ai pas le chiffre exact, mais il se trouve que, en gros, vu la morphologie de l'éléphant, qui est plutôt un gros animal, il faudrait qu'il siphonne plusieurs fûts de bière forte, de 10 à 20 litres de bière à 8 degrés, mettons. Alors après, on a fait le calcul en équivalent...
3 tonnes, vous écrivez. 3 tonnes devraient s'envoyer en peu de temps entre 10 et 20 litres d'un liquide à 7% d'alcool. Donc 10 à 27 litres d'un liquide à 7% d'alcool pour un éléphant de 3 tonnes.
Alors, après, on a fait le calcul en équivalent prune et on s'est aperçu qu'en aucun cas, un éléphant ne peut devenir ivre, même dans des hypothèses en supposant que la prune fermentée est à 3 degrés d'alcool, ce qui était déjà extrêmement osé comme hypothèse. Bref, on sait, on a pu au moins éliminer une des causes possibles d'ivresse de l'éléphant, c'est pas parce qu'il mange des prunes. Alors, il y a peut-être, je sais pas, d'autres choses à voir. Peut-être le ballon de la trompe, comme vous disiez, peut expliquer cette démarche chaloupée.
Dites-moi, quand on écoute ces histoires de science, il y a une question qui vient immédiatement en tête. Pourquoi s'intéresser à des phénomènes comme ceux-là? Pourquoi des scientifiques dépensent du temps, de l'énergie, des ressources pour répondre à des questions de cette nature-là? Est-ce qu'on a des pistes, des hypothèses, ou c'est pour le simple plaisir de connaître?
Ah non, le métier du scientifique, c'est répondre à des questions. Mais avant de répondre à des questions, il faut se les poser. Et toutes les questions sont bonnes à considérer. Il y a par exemple, vous allez me dire... Il y a des scientifiques qui travaillent sur pourquoi les zèbres ont des rayures. Vous allez dire, mais pourquoi ces gens-là perdent leur temps à faire ça? Eh bien, d'abord, ce n'est pas une perte de temps, parce que si on peut faire progresser la connaissance sur ce domaine, on y gagnera, disons, un supplément de confort intellectuel, si je veux dire. Puis d'autre part, c'est une question passionnante, celle-là en particulier. Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Parce que tous les traits morphologiques des animaux ont une raison. Pourquoi les zèbres ont mieux survécu avec des rayures plutôt que sans rayures? Il y a des réponses évidentes. Les rayures du zèbre seraient un camouflage qui lui permettrait de se cacher derrière les hautes herbes et donc de survivre un peu mieux que ceux qui n'ont pas de
rayures. Mais pourquoi noir et blanc?
Oh, vous en posez des questions.
Pardonnez-moi, je suis journaliste des formations professionnelles. Mais bref, donc, avantage évolutif qu'on aurait développé.
Je vais vous y répondre. Parce qu'il y a une autre hypothèse, c'est que le grand prédateur du zèbre, c'est le lion. le zèbre vit en troupeau, et quand un lion arrive, qu'est-ce qui se passe? Les zèbres partent dans tous les sens. Et toutes ces rayures qui partent dans tous les sens, c'est un peu comme si la mire de la télévision devenait folle. Or, il se trouve que le lion ne voit qu'en noir et blanc. Donc, ce n'était pas la peine de faire des raies roses et des raies violettes. Hein. Du noir et du blanc suffisait. Et donc, tous ces zèbres qui partent dans tous les sens ont pour effet de dérouter complètement le lion, qui se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Voilà.
Parlant de couleurs et de façon dont ça peut confondre certains animaux, j'aimerais que vous me parliez des scarabées et des voitures rouges. Vous vous rappelez celle-là que vous racontez, les scarabées qui vont pondre leurs œufs sur les voitures rouges? Il y a des scientifiques qui ont étudié cette question-là pour voir pourquoi.
Il s'agit de scarabées d'eau qui s'appellent des dytiques. Dans certains endroits, il se trouve que ces scarabées sautent sur les capots des voitures pour y pondre leurs œufs, ce qui est un comportement très, très singulier.
Surtout les voitures rouges.
Hein? Ah oui, on s'est aperçu que ces scarabées avaient une appétence particulière pour les voitures rouges. Donc là encore, il y a eu des études. On a tendu des bâches à proximité d'habitats du dytique. Et puis on a vu sur quelles bâches elles allaient plus volontiers. Et puis ensuite, on a fait des études très compliquées sur la polarisation de la lumière, etc. Bon, enfin bref, je vous la fais courte. On s'est aperçu qu'effectivement, ce type de scarabée préférait la couleur rouge. D'où recommandation des chercheurs, si vous habitez à proximité d'un habitat dytique, évitez d'acheter une voiture de couleur rouge. Recommandation qui n'a sans doute pas été suivie d'effet et c'est pas plus grave pour autant.
Tout est une question de longueur d'onde, des eaux, des surfaces où ces insectes ont l'habitude d'aller pondre leurs œufs. Ouais. Longueur d'onde qui serait l'équivalente de celle des voitures de couleur rouge, si j'ai bien compris.
Et de polarisation de la lumière, mm-hmm. si je me souviens bien, oui.
Alors, écoutez, il y a un animal sur lequel vous vous penchez, vous avez décortiqué ce qu'on dit au sujet d'un animal qui nous tient fort à cœur en cette saison où plusieurs s'apprêtent à déguster leur premier homard, si ce n'est déjà fait. Est-ce que le homard souffre quand on l'ébouillante, M. Launay? Je sens l'hésitation, là.
Oui, j'ai une hésitation, parce que vous n'imaginez pas le nombre d'études qu'il y a eu sur la souffrance du homard. Bon, la dernière en date tente à indiquer que le homard ne souffre pas. Pourquoi ? Malgré les apparences, parce que quand on jette un homard dans l'eau bouillante, il n'a pas l'air de passer un quart d'heure très agréable.
Mais certains disent qu'ils l'entendent siffler.
Ah, c'est vrai ?
Oui, j'ai déjà entendu un homard siffler. Oui.
Bon. La science nous dit que le homard avec 100 000 neurones, alors que nous, c'est plutôt 100 milliards, n'a pas, disons, la capacité de souffrir. Il ne souffre pas. Bon, on aimerait en être totalement convaincu, mais au moins on a la caution de la science. Alors, ceci.
Il y a un consensus scientifique là-dessus, parce que je sens l'hésitation dans votre voix et vous avez produit un petit texte.
D'autres scientifiques ont conclu que le homard souffrait. Il y a même eu des études très, très intéressantes sur le poisson, parce que les gens qui pêchent à la ligne, est-ce qu'ils font s'ouvrir les poissons avec leurs hameçons, etc. Il y a eu quantité d'études, ce qui est cocasse, c'est qu'une des dernières études avait été suscitée par une exposition d'art contemporain. C'est un artiste qui avait mis des petits poissons rouges dans des bocaux, qui se trouvaient être des bocaux de mixeur. Et donc, il y avait un petit bouton qu'on appelait le bouton de la mort. Et le visiteur de l'exposition avait le choix ou non d'appuyer sur le bouton. Je trouve que certains visiteurs ont appuyé sur le bouton de la mort. D'où mort du poisson. Et donc, il y a eu un procès, pas contre l'artiste, mais contre le directeur du musée, en disant, monsieur, traitement inhumain d'animaux, etc. Ces poissons ont souffert pour aucune raison, etc. Et donc là, on a été chercher des études assez récentes qui avaient été faites en Irlande il y a 3-4 ans, où il a été prouvé que le poisson ne souffre pas. Alors, ça a été fait avec des choses un petit peu compliquées, trouver les nocicepteurs, c'est-à-dire les récepteurs de la douleur, etc., etc. Mais enfin, bref, ces études-là ont une application concrète, c'est qu'en justice, on a pu innocenter ce directeur du musée en disant, là, un coup de mixeur très rapide, comme ça, le poisson n'a pas souffert. Mm-hmm. Voilà. La science sert quand même à quelque chose.
Dans vos textes, M. Launay, on sent qu'il y a évidemment beaucoup d'humour dans votre plume. Vous avez une plume très fluide. C'est des petits bijoux de quelques pages qui se dégustent tout d'un coup ou tout doucement, comme on le préfère.
Merci.
Mais le ton est parfois très grinçant, comme si vous doutiez un peu de l'utilité ou de la pertinence ou du sérieux de certaines de ces études. Est-ce que je me trompe?
totalement.
Ah bon?
Alors là, totalement. C'est embêtant ce que vous me dites là. Moi j'ai un grand respect pour les chercheurs. Souvent je présente ces études par le petit bout de la lorgnette pour accentuer le côté un peu comique parfois.
Mais sans arrière-pensée, comique, mais...
Je ne fais pas du tout le procès de la science. Bon, il se trouve que je lis la littérature scientifique avec un petit biais, mais je la lis. Et si je la lis, c'est parce que je trouve ça passionnant. Et je trouve que ces milliers d'articles qui sont publiés chaque jour et dont personne n'a connaissance dans le grand public, parce que ce sont des revues de spécialistes pour spécialistes.
Dans une langue de spécialistes aussi.
Est très dommage que ça ne soit pas plus diffusé à l'extérieur, parce que souvent ces histoires de science racontent des histoires, tout simplement, et on n'a pas l'idée d'aller les chercher dans les revues scientifiques. Certes, la langue est un petit peu aride, mais on trouve des choses formidables.
Pour conclure, M. Launay, j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour, un peu en marge de tout ce que vous avez écrit, de ces 60 et quelques, presque 70 petites histoires de science qui mettent en scène les animaux, j'aimerais qu'on voit un peu, si on prend du recul et qu'on regarde qu'est-ce qu'on a retiré comme bénéfice en étudiant les animaux. Est-ce qu'il y a des avancées technologiques? On parle souvent du gecko et de la substance collante qu'il a sous les pattes ou des toiles d'araignée. Est-ce qu'on a des exemples immédiats, concrets, de ce qu'on a pu obtenir au-delà du plaisir de la connaissance pure, des applications plus concrètes?
Vous avez déjà cité deux applications. Il y en a plein d'autres. Le vol des oiseaux est étudié pour l'aérodynamique. Même le vol des papillons est passionnant de ce point de vue-là. Beaucoup d'études font progresser la science. Mais moi, franchement, je pense que le premier bénéfice de ces études, c'est quand même une meilleure connaissance de la nature. Et c'est pour ça que c'est fait. On n'étudie pas les animaux pour faire progresser les technologies spatiales, ou c'est rare. Mais le premier bénéfice, c'est répondre à des questions qu'on se pose sur la nature. Et ça, c'est déjà énorme. Je trouve que ça vaut largement le coup de passer du temps et de dégager des budgets pour ça.
Et c'est tellement fascinant de le faire en plus. Et ça donne lieu à des livres comme celui que vous avez écrit, qui est vraiment un petit bonheur à déguster comme on le veut, là, tout d'un coup ou tout doucement. Alors, merci beaucoup, Édouard Launay.
C'est moi qui vous remercie.
De nous parler de votre livre qui s'intitule, je le rappelle, « Au fond du zoo à droite », c'est paru dans la collection « Science ouverte au seuil ». Merci beaucoup.
Bonne journée, merci.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière réalisée par Dominique Lapointe avec à la technique Alexandre Hamel, les journalistes Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et au site internet Bruno Maltais, chroniqueur Yves Gingras et Yannick Villedieu qui vous parlent. Bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada, notamment ce soir à 20h, l'émission Par quatre chemins de, avec et par Jacques Languirand. Bonne semaine donc et à la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.